Le livre de Joël et l'Église adventiste du septième jour, Laodicéenne, numéro 20.
Numéro 20.
Le livre de Joël indique que la destruction de la vigne de Dieu se produit à la quatrième génération.
La parole du Seigneur qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel.
Écoutez ceci, anciens, et prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-ce arrivé de vos jours, ou même au temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération.
Ce que la chenille rongeuse a laissé, la sauterelle l'a mangé. Et ce que la sauterelle a laissé, la chenille arpenteuse l'a mangé. Et ce que la chenille arpenteuse a laissé, la chenille l'a mangé.
Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez, et hurlez, vous tous buveurs de vin, à cause du vin nouveau, car il vous est ôté de la bouche. Joël 1, 1, 5.
La parabole des 10 vierges est la parabole de l'adventisme. Et le réveil dans la parabole se produit lorsque le blé et l'ivraie sont séparés, moment où l'ivraie prend conscience qu'elle a été retranchée du vin nouveau. L'expression « retranchée » renvoie à la première étape de l'alliance d'Abraham où une génisse, une chèvre et un bélier furent coupés en deux dans le rituel destiné à ratifier l'alliance par le sang. Dans ce même passage de l'alliance, Dieu précise qu'il visitera son peuple en jugement à la quatrième génération.
Est-il dit à Abraham, « Sache bien que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le sien, elle les servira et ils l'opprimeront pendant 400 ans. Et la nation même qu'elle servira, je la jugerai. Ensuite, elle sortira avec de grands biens. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une bonne vieillesse. Mais à la quatrième génération, elle reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Genèse 15, 13, 16.
Lorsque la prophétie fut accomplie, à la quatrième génération, à l'époque de Moïse, le Seigneur énonça les 10 commandements comme symbole de l'alliance avec Dieu et son peuple élu. Dans la deuxième de ces 10 simcha, la lumière des 4 générations d'Abraham fut magnifiée.
Tu ne te feras pour toi aucune image taillée ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, 6.
Les 4 générations de l'alliance d'Abraham furent intégrées à la mise en relief du caractère de Dieu en tant que Dieu jaloux. Sa jalousie est mise en contraste avec les images taillées. Avec la 4e génération d'Abraham, nous trouvons aussi un jugement progressif. Le jugement s'abattit sur la nation où le peuple de Dieu était en servitude, ainsi que sur le peuple de Dieu, et après cela, les Amoréens seraient jugés. Abraham identifie un processus de jugement progressif, qui commence par la maison de Dieu et progresse à travers le monde. Et le 2e commandement indique que le processus de jugement divise l'humanité en 2 classes, ceux qui haïssent Dieu et ceux qui aiment Dieu, typifiant ainsi la loi du dimanche qui clame « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. »
Et même temps que la loi est donnée au Sinaï, le caractère de Dieu est montré à Moïse.
« Et l'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre semblables aux premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et sois prêt de bonne heure le matin, et monte dès le matin au mont Sinaï, et présente-toi là devant moi, au sommet de la montagne. Et que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et que ni les brebis ni les bœufs ne paissent devant cette montagne. »
Il tailla 2 tables de pierre semblables aux premières, et Moïse se leva de bon matin, monta au mont Sinaï, selon ce que le Seigneur lui avait ordonné, et prit dans sa main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui, et proclama
« le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité, qui garde sa miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et Moïse se hâta, inclina la tête vers la terre et adora. Et il dit, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que mon Seigneur, je te prie, aille au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide, et pardonne notre iniquité et notre péché, et prends-nous pour ton héritage. » Exode 34, 1, 9.
La seconde promulgation de la loi correspond au tableau pionnier de 1850.
les premières tables furent brisées et le premier tableau comportait une erreur dans les chiffres. L'ancien Israël fut alors constitué dépositaire de la loi et l'Israël moderne fut ensuite constitué dépositaire de la loi de Dieu et des lois de la parole prophétique de Dieu. Lorsque les deux tables furent introduites pour la première fois, il y eut une rébellion concrète dans le camp, et lorsque le tableau de 1850 fut introduit, une rébellion spirituelle couvait dans le camp. La prophétie d'Abraham relative à la quatrième génération fut accomplie par Moïse à la quatrième génération, où Dieu élargit la révélation du jugement à la quatrième génération dans le deuxième commandement. Les images taillées devinrent la contrefaçon du vrai culte rendu à Dieu, et la jalousie du caractère de Dieu fut rattachée au jugement. Alors Moïse contempla la gloire de Dieu. Il vit la jalousie de Dieu comme un élément de son caractère tel que représenté par son nom. Et la relation entre l'adorateur et les péchés de ses pères est exposée. Quand Christ purifia le temple pour la première fois, les disciples se souvinrent alors que le zèle de sa maison l'avait dévoré. Le zèle, c'est le mot « jalousie ». Le caractère de Dieu qui exprime sa jalousie est la motivation qui poussa Christ à purifier son temple et l'attribut prophétique de la nécessité de confesser ses péchés de vos pères deviendrait plus tard un élément essentiel de l'appel à la repentance dans le jugement des sept temps de Lévitique 26. La quatrième génération d'Abraham prend de plus en plus de poids à mesure qu'elle se poursuit au fil de l'histoire de l'Alliance. Le livre de Joël représente le temps de la pluie de l'arrière-saison, qui survient dans les derniers jours. Le livre de Joël présente son message en l'introduisant par le message de quatre générations, comme le thème qui fut consigné dès la toute première étape de l'Alliance en trois volets d'Abraham avec Dieu. Ce thème trouve son aboutissement dans le livre de Joël. Une fois dans la terre promise, l'arche de l'Alliance fut placée à Silo, où l'on oppose le méchant et insensé Élie, le grand prêtre, et ses deux fils corrompus à l'appel de Samuel. Silo allait devenir une étape dans le parcours de l'arche, qui était le symbole de l'Alliance. Après que l'arche eut servi de symbole de la chute des murailles de Jéricho, elle demeura à Silo pendant environ 400 ans, jusqu'à la mort d'Élie et de ses fils méchants. Elle fut ensuite capturée par les Philistins et, par la suite, lorsque David transporta l'arche à Jérusalem, la première illustration de l'entrée triomphale à Jérusalem fut réalisée. Le but déclaré du déplacement du symbole de l'Alliance à Jérusalem était que Dieu avait choisi de placer son nom à Jérusalem, et son nom est associé à sa jalousie, laquelle est liée à son jugement jaloux jusqu'à la quatrième génération. Lors de la loi du dimanche, le Seigneur élèvera l'Église triomphante, au-dessus de toutes les collines et de toutes les montagnes. Et les nations diront « Venez et allons à la maison de Dieu ».
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux viendront et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. » Ésaïe 2:2-3.
La parole du Seigneur sort de Jérusalem, car c'est là qu'il a choisi de placer son nom. Avec Moïse, le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui et proclama le nom du Seigneur. Et le Seigneur passa devant lui et proclama
« L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité, gardant sa miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Exode 34:6-7.
Son nom est son caractère, et le caractère de Dieu est profondément complexe et profondément simple. Dieu est amour, c'est son caractère à la perfection, mais exprimé simplement. La vérité d'alliance d'Abraham concernant la quatrième génération du jugement a été développée ligne sur ligne par la lumière supplémentaire du deuxième commandement au sujet de la quatrième génération. Puis l'expérience de Moïse élargit la lumière sur le lien de la quatrième génération avec le caractère de Dieu, en y ajoutant la lumière de sa jalousie. L'aspiration a défini le caractère comme des pensées et des sentiments combinés. Mais l'aspiration nous a aussi informé que nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu. Son caractère est ses pensées et ses sentiments combinés. Et son caractère possède tant de facettes au-delà de nos simples pensées et sentiments humains que la différence est que ses pensées sont aussi élevées que les cieux au-dessus de la terre.
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées. Ésaïe 55, 8, 9.
Voici donc une pensée humaine à méditer. Si le caractère de Dieu est représenté par son nom, alors toute manifestation du nom de Dieu est une manifestation de son caractère. Le lion de la tribu de Juda scelle et décèle sa parole prophétique. Palmoni est le merveilleux dénombreur des secrets, qui est aussi la racine sortant d'une terre sèche, le buisson ardent, une colonne de feu, l'archange Michel, et ainsi de suite. Les attributs du caractère de Dieu, tels que représentés par ces divers noms, sont sans fin. La pensée humaine à méditer est celle-ci. Avec toutes les diverses expressions du caractère de Dieu dont on sait qu'elles existent, quelle est la signification du fait que, dès la toute première étape du processus d'alliance en trois étapes avec Abraham, le jugement de la quatrième génération constitue l'énoncé fondamental de l'alliance qui reflète son nom.
Est-il dit à Abraham, « Sache bien que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le sien, elle les servira et ils l'opprimeront pendant 400 ans. Et la nation même qu'elle servira, je la jugerai. Ensuite, elle sortira avec de grands biens. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une bonne vieillesse. Mais à la quatrième génération, elle reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Genèse 15, 13, 16.
Le caractère de Dieu, en tant que juge des hommes et des nations, accorde aux hommes une période d'épreuve qui est représentée par quatre générations. Dieu est le juge, il est miséricordieux, il est patient, et il mène le jugement des hommes et des nations, à son terme, à la quatrième génération. L'énoncé fondamental de Dieu dans son alliance avec un peuple choisi inclut le jugement à la quatrième génération. De même que le message du premier ange possède toutes les caractéristiques de chacun des trois messages des anges, de même la première étape de l'alliance d'Abraham possède les caractéristiques de l'ensemble de l'alliance tripartite. Le nom de Dieu est celui du juge miséricordieux qui juge à la quatrième génération. Toute autre étape de l'histoire de l'alliance d'un peuple choisi se construit sur ce fondement. Lorsque le livre de Joël est placé au réveil du cri de minuit au verset 5 et que le vin nouveau est retranché de leur bouche, l'introduction à cette séparation finale, selon l'alliance, d'un peuple d'alliance choisi constitue le message fondamental de l'alliance, lequel expose la rébellion du peuple d'alliance qui est alors retranché, ce qui s'accomplit à la quatrième génération. Ils sont retranchés parce qu'ils n'ont pas compris le message fondamental de l'alliance. Ce message fondamental de l'alliance, dans les quatre versets du chapitre 15 de la Genèse, est la règle de mesure, la ligne de jugement utilisée lorsque le message culminant de l'alliance est présenté comme du vin nouveau dans les derniers jours. La gravité associée au réveil des ivrognes d'Éphraïm, lorsque le vin nouveau est retranché, ne se comprend véritablement que lorsqu'on la place dans le contexte d'une déclaration de jugement contre la quatrième et dernière génération d'un peuple choisi, mais rebelle, pendant la période d'épreuve de la pluie tardive. Dans Genèse 17, nous trouvons la deuxième étape de l'alliance en trois volets avec Abraham.
Et Dieu dit à Abraham, « Tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, dans leur génération. C'est mon alliance que vous garderez, entre moi et toi et ta postérité après toi.
Un mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, on circoncira parmi vous tout mâle, de génération en génération, qu'il soit né dans votre maison ou acheté à prix d'argent à un étranger qui n'est pas de votre descendance. Celui qui est né dans votre maison et celui qui a été acheté avec votre argent devront être circoncis, et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. Et le mâle incirconcis, dont la chair du prépuce ne sera pas circoncise, sera retranché d'entre son peuple. Il aura rompu mon alliance. » Genèse 17, 9, 14.
La deuxième étape fournit un second témoignage du symbole d'être, retranché. Le mot traduit par « retranché » trouve sa racine dans les animaux qu'Abraham a coupés en deux au chapitre 15 et, dans le passage, « quiconque n'est pas circoncis sera retranché de l'alliance ». La circoncision a été remplacée par le baptême dans l'histoire de l'Alliance, où le Christ confirmait ces mêmes vérités, et pour cette raison, lui, comme notre exemple, a été ressuscité le 8e jour. Ce signe devait être accompli le 8e jour, comme le représentent les 8 hammams dans l'arche. C'est à la deuxième étape que se manifeste l'épreuve visuelle, qu'il s'agisse d'Israël choisissant entre les prophètes de Jézabel et Élie avant le jugement exécuté par Élie, ou des visages de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego paraissant plus beaux et plus gras que ceux des personnes qui mangeaient la nourriture du roi. la seconde épreuve est visuelle. La circoncision est un signe de vie, et les huit amams dans l'arche représentent ceux qui ont vécu, par contraste avec ceux qui sont morts.
Dans l'histoire du Christ, lorsque le signe de l'Alliance est passé au baptême, l'apôtre Paul a employé l'histoire même de l'Alliance, contenue dans ses versets pour démontrer le changement majeur survenu dans l'histoire de l'Alliance. Il a utilisé la chair retranchée lors de la circoncision comme symbole de l'homme en relation avec la divinité et comme symbole de la nature inférieure de l'homme par rapport à sa nature supérieure. Paul enseignait ses élèves en recourant à la parole prophétique de Dieu, et son but, en tant que « celui qui a été choisi », comme signifie son nom « Saul », était d'identifier le changement majeur dans l'histoire de l'Alliance représentée par la transition d'Israël littéral à Israël spirituel, comme peuple de l'Alliance de Dieu. En accomplissant l'œuvre qui lui était confiée, il a présenté son message prophétique dans le contexte de l'histoire de l'Alliance.
Genèse 17 représente la deuxième étape des trois étapes fondamentales de l'Alliance, qui trouve leur accomplissement oméga dans les trois anges d'Apocalypse 14. La deuxième étape est représentée par le signe de la circoncision, préfigurant le sceau de Dieu apposé sur les 144 000, qui sont l'étendard, lequel représente l'épreuve visuelle. Les trois anges sont l'oméga de l'Alliance Alpha d'Abraham. La troisième étape pour Abraham fut le chapitre 20, thème 2.
Et l'ange de l'Éternel appela Abraham du ciel une seconde fois, et dit « Par moi-même j'ai juré, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela et n'as pas retenu ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22, 15-18.
Le premier verset du chapitre déclare « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu mit Abraham à l'épreuve, identifiant ainsi une épreuve finale avant la troisième déclaration de l'Alliance. Lorsqu'Abraham réussit l'épreuve, les quatre derniers versets de l'Alliance en trois volets d'Abraham furent alors énoncés. Parce qu'Abraham avait obéi à la voix de Dieu, qui, dans ce passage, et sa voix d'alliance, Abraham serait béni comme père des nations. Le troisième ange est une épreuve qui, c'est à l'exemple d'Abraham, manifeste le caractère. Et le caractère se fonde sur le fait de croire Dieu, comme le fit Abraham, ou non. Ceux qui réussissent l'épreuve, comme Abraham, seront employés pour rassembler toutes les nations du monde. Les 17 versets, tirés de trois chapitres, identifient l'alliance entre Dieu et un peuple choisi. Et, ce faisant, il représente l'alpha de l'histoire de l'alliance d'un peuple choisi. Et, ce faisant, ces versets représentent aussi l'oméga de l'histoire de l'alliance, telle qu'elle est représentée par l'apparition des 144 000.
Combien d'entre nous achèteraient une maison ou un véhicule sans d'abord examiner les conditions du contrat? Combien d'adventistes du septième jour laodicéens savent que la toute première clause de leur contrat, d'alliance avec Dieu, est que Dieu s'identifie comme le Dieu miséricordieux, qui prononce le jugement à la quatrième génération? La tragédie, c'est qu'ils ne connaissent ni les vérités fondamentales de l'histoire millériste, ni les vérités fondamentales de la relation d'alliance qu'ils professent. Et à cause de cela, comme l'Israël ancien, ils ne connaissent pas le temps de leur visitation. La conclusion de cette période de visitation, qui a commencé le 11 septembre, est le moment où ils sont réveillés à minuit pour s'apercevoir seulement qu'ils sont retranchés.
Nous continuerons dans le prochain article de Pater.
Le 18 avril, deux jours après que la scène d'immeubles s'effondrant avait défilé devant mes yeux, je me rendis pour honorer un engagement à l'église de Carr Street, à Los Angeles. À l'approche de l'église, nous entendîmes les vendeurs de journaux crier « San Francisco détruite par un tremblement de terre ». Le cœur lourd, je lus les premières nouvelles, imprimées à l'hâte de la terrible catastrophe. Deux semaines plus tard, sur le chemin du retour, nous sommes passés par San Francisco et après avoir loué un fiacre, nous avons consacré une heure et demie à contempler les ravages infligés à cette grande ville. Des bâtiments que l'on croyait à l'épreuve des catastrophés gisaient en ruines. Dans certains cas, des bâtiments étaient partiellement enfoncés dans le sol. La ville offrait le spectacle le plus effroyable de l'impuissance de l'ingéniosité humaine à concevoir des édifices à l'épreuve du feu et des tremblements de terre. Par son prophète Sophonie, le Seigneur précise les jugements qu'il fera venir sur les méchants. « J'anéantirai entièrement toute chose de la surface de la terre, dit le Seigneur. J'anéantirai l'homme et la bête. J'anéantirai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, ainsi que les causes de chute avec les méchants. Et je retrancherai l'homme de la surface de la terre, dit le Seigneur. Et il arrivera, au jour du sacrifice du Seigneur, que je punirai les princes, les enfants du roi, et tous ceux qui sont vêtus d'habits étrangers. Ce même jour, je punirai aussi tous ceux qui sautent sur le seuil, qui remplissent les maisons de leurs maîtres de violence et de tromperie. Et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, qui disent en leur cœur, « L'Éternel ne fera ni bien ni mal ». C'est pourquoi leurs biens deviendront un butin, et leurs maisons deviendront une désolation. Ils bâtiront aussi des maisons, mais ne les habiteront pas. Et ils planteront des vignes, mais n'en boiront pas le vin. Le grand jour du Seigneur est proche, il est proche, et s'avance vivement. C'est la voix du jour du Seigneur. L'homme vaillant écrira amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour de trouble et de détresse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité épaisse, un jour de trompettes et d'alarmes, contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme la poussière, et leur chair comme du fumier. Ni leur argent ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la colère du Seigneur. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il anéantira promptement tous ceux qui habitent le pays. Sophonie 1, 2, 3, 8, 18. Dieu ne pourra pas s'abstenir beaucoup plus longtemps. Déjà, ses jugements commencent à s'abattre sur certains lieux, et bientôt son mécontentement manifeste se fera sentir en d'autres lieux. Il se produira une série d'événements révélant que Dieu est maître de la situation. La vérité sera proclamée dans un langage clair et sans équivoque. En tant que peuple, nous devons préparer la voie du Seigneur sous la conduite souveraine du Saint-Esprit. L'Évangile doit être prêché dans toute sa pureté. Le fleuve d'eau vive s'approfondira et s'élargira tout au long de son cours. Dans toutes les contrées, proches et lointaines, des hommes seront appelés à quitter la charrue et les professions commerciales plus ordinaires qui accaparent largement l'esprit et y seront formés auprès d'hommes d'expérience. À mesure qu'ils apprendront à travailler efficacement, ils proclameront la vérité avec puissance. Par les interventions les plus merveilleuses de la providence divine, des montagnes de difficultés seront enlevées et jetées dans la mer. Le message qui a tant d'importance pour les habitants de la terre sera entendu et compris. Les hommes sauront ce qu'est la vérité. Toujours plus avant, l'œuvre progressera jusqu'à ce que toute la terre ait été avertie, et alors viendra la fin. De plus en plus, au fil des jours, il devient évident que les jugements de Dieu se font sentir dans le monde. Par le feu, les inondations et les tremblements de terre, il avertit les habitants de cette terre de son approche imminente. Le moment approche où la grande crise de l'histoire du monde sera arrivée, où chaque mouvement dans le gouvernement de Dieu sera suivi avec un vif intérêt et une appréhension indicible. En rapide succession, les jugements de Dieu se succéderont, feu, inondations et tremblements de terre, avec la guerre et l'effusion de sang. Oh, si seulement le peuple connaissait le temps de sa visitation! Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore entendu la vérité éprouvante de ce temps. Il y en a beaucoup avec qui l'Esprit de Dieu lutte. Le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur les regardera avec tendresse. Son cœur de miséricorde est touché. Sa main est encore étendue pour sauver, tandis que la porte est fermée à ceux qui n'ont pas voulu entrer. La miséricorde de Dieu se manifeste dans sa longue patience. Il retient ses jugements, attendant que le message d'avertissement soit proclamé à tous. Oh, si notre peuple ressentait comme il le devrait la responsabilité qui repose sur lui de donner au monde le dernier message de miséricorde, quelle œuvre merveilleuse serait accomplie. Témoignage, volume 9, 94-97.